Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio Grand Ciel. Au micro, Yves Bastide pour l'émission Café Pouchkin. Je voudrais aujourd'hui évoquer un écrivain gigantesque du 19e siècle, un écrivain russe gigantesque du 19e siècle, Nikolaï Vassilievitch Gogol. Alors, Gogol est d'origine ukrainienne, mais à l'époque, cela ne posait pas de problème, puisque c'était russe-ukrainien, on ne faisait pas officiellement la différence. Il est né en 1809, dans le gouvernement de Poltava. Et il a eu un début de vie, disons, plus que modeste. Il a occupé un emploi très, très petit dans un ministère. Et il a commencé à se faire connaître en écrivant des contes tirés du folklore ukrainien, notamment la nuit de la Saint-Jean, les soirées du hameau, exactement les veillées du hameau près de Dikanka, et une nuit de mai. Certaines ont été mises en musique, notamment par Rimsky-Korsakov. Et Gogol, très vite, dès 1833, alors qu'il sort à peine de l'adolescence, vit une crise morale très importante. Il se demande pourquoi il est là, quel est le destin de la Russie. Il va écrire entre 1834 et 1836 certaines des nouvelles qu'on appelait nouvelles de Saint-Pétersbourg, que beaucoup d'entre vous sans doute connaissent. Notamment une qui s'appelle Le Nez. Alors Le Nez, c'est une nouvelle complètement fantastique. Un fonctionnaire découvre un matin en surveillant qu'il n'a plus de nez. Imaginez son effroi, comment peut-on sortir dans la rue si l'on n'a pas de nez? Et puis, il croise son nez. Son nez qui, revêtu d'un uniforme, entre à la cathédrale de Saint-Pétersbourg. Alors, je vous signale, si ça vous intéresse, qu'il y a un opéra extraordinaire de Shostakovich qui a été tiré de cette nouvelle fantastique. Gogol va continuer en écrivant une pièce qui aura un succès considérable, qui depuis longtemps fait partie du répertoire du théâtre russe. Cette pièce s'appelle Le Révisor. Le sujet lui a été fourni par Pouchkine, qui était son ami. Alors, Le Révisor, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'une ville de province où les fonctionnaires dirigent tout en se sucrant, si j'ose dire au passage, sans crainte ni remords, puisque pour eux, c'est tout à fait normal. Et puis voilà, on les informe qu'il va y avoir bientôt dans leur ville la visite d'un révisor, c'est-à-dire en gros, disons, un inspecteur chargé de vérifier la façon dont ils gèrent la ville. C'est une panique monumentale parmi les fonctionnaires, aussi bien le gouverneur que le juge, que le directeur des affaires sanitaires, etc. Et à ce moment-là, deux braves abrutis du village arrivent et disent au gouverneur: il y a un jeune homme qui vient d'arriver à l'auberge, c'est sans doute le révisor. Tout le monde est persuadé qu'effectivement C'est le réviseur, alors qu'en réalité, c'est un jeune dandin qui fuit ses créanciers. Il s'appelle Khriassakov. Et il va être reçu par le gouverneur. Tout le monde le prenant pour le réviseur. Au passage, il y a une scène à la représentation qui est assez irrésistible. Khriassakov, qui trouve que la fille du gouverneur est, ma foi, bien mignonne, bien jolie, bien agréable à regarder. Et il décide de la demander en mariage. Et puis, en faisant sa demande, il trouve que la mère de la jeune fille est aussi pas mal et il déclare son amour à la mère. Et disons que personne n'y comprend plus rien. Et évidemment, le réviseur repart, non sans avoir touché quelques enveloppes bien garnies, quelques pots de vin, mais voilà, c'est tellement l'habitude que personne n'y prête attention. Et lorsque toutes les autorités de la ville se réjouissent de ce départ du réviseur, après tout, ils ont échappé au pire, entre un serviteur qui leur annonce l'arrivée du véritable réviseur. Alors, la pièce, au départ, a fait scandale, et puis les choses se sont calmées très vite. Pour une raison très simple, c'est que le tsar Nicolas Ier est allé la voir, et la pièce l'a beaucoup amusé. Et en sortant, il a dit « Ah, nous en avons tous pris pour notre grade, y compris moi-même. » Du coup, les courtisans ont trouvé que la pièce était très, 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 très bien. Et la pièce a continué avec succès. Elle est toujours jouée dans des mises en scène qui évoluent avec le temps. Mais finalement, et peut-être malheureusement, l'actualité nous apprend que les fonctions publiques, parfois, entraînent des tentations auxquelles tous les fonctionnaires ne se veulent pas toujours résister. Après le réviseur, Gogol entame la rédaction de ce qui va être son grand livre. Son grand livre, c'est Les âmes mortes. Alors, Les âmes mortes, de quoi s'agit-il ? D'abord, il faut savoir que les âmes en question, ce sont les cerfs. Le servage a été aboli en Russie en 1862. Donc, et les âmes mortes, ce sont les cerfs morts. Les cerfs hommes. Les femmes n'étaient pas recensées dans le servage. Les femmes et les enfants n'étaient pas recensés. Mais entre deux recensements, toutes ces âmes décédés, tous ces sœurs qui étaient décédées, étaient déclarés toujours vivants pour les registres. Et les propriétaires payaient en fonction du nombre d'âmes qu'ils possédaient, mortes ou pas mortes. Et le héros du livre parcourt toute la Russie à bord d'une troïka en proposant aux propriétaires de leur acheter ces âmes mortes. Après, ça lui permettrait de déclarer qu'il a tant d'âmes à sa disposition et d'obtenir des crédits pour aller s'installer en Sibérie. Alors évidemment, acheter des âmes mortes, ça pose des problèmes à certains propriétaires. D'abord parce que on ne sait pas très bien quel peut être le tarif d'une âme morte. Un cerf, on sait à peu près combien il peut valoir sur le marché. Une fois mort, combien vaut-il ? Et il y en a certains, bon, il y a des propriétaires pour qui ça ne pose pas de problème, des propriétaires, il y a une vieille dame Kalobotchka qui va se précipiter en ville pour savoir où en est le marché des âmes mortes, quel est le prix des âmes mortes. Il y a le vieil avare qui, lui, arrivera à vendre des âmes et à glisser dans la liste des âmes qu'il vend au héros du livre, a glissé une femme. Alors là, la présence de cette femme est un scandale monumental parce que, encore une fois, les femmes ne sont pas recensées dans la liste des serfs. Alors, Les âmes mortes, ça reste sans doute, à mon avis, le plus bel ouvrage de Gogol. Surtout la fin. La fin où il compare la Russie à une troïka, avec un messianisme qui plaît toujours aux Russes. Je vous lis cette fin. Et toi, Russie, ne voles-tu pas comme une ardente troïka qu'on ne saurait distancer? Tu passes avec fracas dans un nuage de poussière, laissant tout derrière toi. Le spectateur s'arrête, confondu par ce prodige divin. Ne serait-ce pas la foudre tombée du ciel? Que signifie cette course effrénée qui inspire l'effroi? Quelle force inconnue recèle ces chevaux que le monde n'a jamais vus? Ô coursier, coursier sublime, quel tourbillon agite vos crinières? On dirait que votre corps frémissant écoute l'oreille en entendant au-dessus d'eux la chanson familière et bombent à l'unisson leur poitrail d'airain. Et effleurant à peine la terre de leurs sabots, ne forment plus qu'une ligne tendue qui fend en l'air. Ainsi vole la Russie sous l'inspiration divine. Où cours-tu? Réponds, pas de réponse. La clochette tinte mélodieusement, l'air bouleversé s'agite et devient un vent. Tout ce qui se trouve sur terre est dépassé, et avec un regard d'envie, les autres nations s'écartent pour lui livrer passage. Je vous remercie de m'avoir écouté.